Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. On appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Alors, je vais encore tricher un peu, hein, parce que ça, c'est pas une histoire qui remonte très très loin. Moi, les premiers transistors, mon papa m'a montré ça dans les années 50. Enfin, ça fait quand même un paquet. Hein. Bon. Alors, vous me permettrez de garder l'étiquette contre-histoire. Nous avons reçu une brochure l'automne dernier affichant ce titre alarmant « Progrès et barbarie ». Bulletin du réseau Échanges et Mouvements, avec en sous-titre « Terres rares, lithium, cobalt, l'innovation capitaliste tue ». La première page reprenait l'alerte d'Agoravox, la face cachée de l'économie verte et terrifiante. Ordinateurs, smartphones, tablettes, écrans tactiles, voitures électriques, capteurs solaires, éoliennes, tout ça est fabriqué avec des terres rares. Samarium, europium, lutécium, prométhium, indium, etc. Or, l'extraction de ces métaux est particulièrement énergivore et polluante. La purification passe par des acides et l'eau nécessaire se charge en métaux lourds infestant nappes phréatiques, rivières, fleuves et océans. En Chine, cancer, accident vasculaire, hypertension, ostéoporose, malformations osseuses se multiplient dans certaines régions minières. L'exploitation des terres rares se fait dans des conditions sanitaires et environnementales scandaleuses. Les énergies renouvelables fonctionnent grâce à l'utilisation de matières premières qui ne sont pas renouvelables. La transition énergétique est une catastrophe écologique. L'art de délocaliser la pollution dans les pays où sont exploités les métaux rares. La voiture électrique n'est pas écologique. Les énergies vertes polluent. On déplace le problème vers les pays où les conditions d'extraction des métaux rares sont déplorables et sacrifient la santé des populations. Derrière les énergies vertes, une réalité terrible, celle des peuples sacrifiés au nom du profit et de la croissance économique. La face cachée de l'économie verte est terrifiante. Et vous pourrez compléter cette émission en vous portant sur http://rosemar.overblog/.com/. Ça, tout ce que je vais vous lire ou vous transmettre après réduction, après condensation de texte, a été repris sur la publication d'AgoraVox du 5 mai 2018. Alors, quand j'ai vu cette première page, mon sang vert n'a fait qu'un tour. Quelques infos de ce désespérant recueil avaient déjà fuité. Les éoliennes, les voitures électriques en particulier. Mais ces infos, je voulais les ignorer, cramponner à mon credo, tout sauf le nucléaire. Credo simpliste, ai-je découvert. Car, anticolonialistes, nous savons bien que la course aux terres rares prolonge et prétend justifier la pérennité de la France-Afrique et des autres exploitations minières des pays et des peuples qu'on a prétendu libérer. Mais voudrions-nous renoncer à nos ordinateurs? Au mieux, le plus rigoureux d'entre nous boycottera laborieusement le smartphone, mais pas le téléphone mobile de base, dont l'explosion de l'AZF m'a convaincu de l'utilité. Et la nécessité de savoir et de transmettre allège nos consciences. On trouvera une liste de 17 terres rares sur la page de l'émission, auxquelles il faut ajouter bien sûr le cobalt, le lithium, le cuivre, qui est de plus en plus rare, tous les gisements connus étant en voie d'épuisement, le nickel, le coltan, le mercure et même le graphite. Thank you. Alors, les terres rares, c'est pour quoi faire? Eh bien, c'est fait pour faire l'ETIC, TIC, activité, application auxquelles nous sommes les plus attachés, les technologies de l'information et de la communication. Les TIC ont exporté les usines loin, là où les conditions de travail indignes n'offusqueront pas nos regards pudiques de droits de l'hommiste. Là où Apple et Samsung ont négocié un étonnant accord de complicité concurrente. Le premier commercialisant les produits qu'il fait fabriquer au second, sans lequel il ne serait rien. Tout en vendant chacun des articles concurrents sous leur nom propre, en déterminant soigneusement les obsolescences programmées que viendront aggraver les campagnes publicitaires à chaque nouvelle génération d'iPhone que des fans friqués et décervelés se battront pour arborer les premiers. Alors après l'éthique, il y a les voitures, bien entendu. Les voitures et autres moyens de transport terrestre. La Chine, sans pétrole, a pris de l'avance. Du vélo électrique jusqu'au TGV. Et tous les industriels de l'automobile investissent dans des véhicules hybrides électriques et ou autonomes. Les véhicules à hydrogène sont de très gros consommateurs de terres rares et demandent aussi le molybdène, qui est un poison violent. Et ces véhicules à hydrogène se révèlent plus polluants dans leur cycle fabrication-utilisation que ceux à essence ou même au diesel. Eh oui. Mais les hybrides, de plus en plus nombreux et subventionnés, restent de gros consommateurs de terres rares. Avec le néodyme, qui est utilisé surtout pour les moteurs et générateurs électriques, le cérium, pour les écrans à cristaux liquides, partout, dans les calculettes, dans les téléphones, partout où il y a des écrans à cristaux liquides, il y a du cérium. Les batteries et les pots catalytiques qui demandent aussi du lanthane. La voiture toute électrique est encore plus gourmande en terres rares. Mais les vélos et les trottinettes électriques, les chemins de fer sont aussi des grands consommateurs. L'aviation et l'espace sont aussi de gros consommateurs de terres rares, tant dans la fabrication des alliages métallurgiques que des engins de guidage, contrôle, transmission. Et les drones qui se multiplient. On en prévoit 1 milliard dans les années 2030, en usage civil et militaire. Et ça dévore énormément de terres rares. Maintenant, il y a longtemps que l'on sait que c'est utilisé en médecine, pour les imageries et dans la lutte contre le cancer. Les ampoules électriques aussi utilisent des oxydes et des sulfures de terres rares, en particulier les néons et les ampoules dites fluo compactes ou ampoules à économie d'énergie. Et aussi, on le sait moins, les lampes à gaz et les écrans cathodiques. Mais ce sont les cellules photovoltaïques et les éoliennes qui désespèrent le plus. Alors je vais vous lire quelque chose là. Je reprends la revue en question. Voilà. Découverte en 1840. Elle n'était qu'une curiosité, les cellules photovoltaïques, n'était qu'une curiosité scientifique jusqu'à ce que la recherche spatiale relance cette application dans les années 1960. Mais le ressort remonte surtout aux années 70 pour une expansion exponentielle dans tous les domaines. En 10 ans, leur nombre a été multiplié par 44. Au début et encore actuellement, l'élément de base de ces cellules est une qualité de silicium très pure, la qualité électronique, dont la production est un ogre énergétique, notamment d'énergie fossile, le charbon, et entraîne une pollution inégalée de produits toxiques. 1 cm² d'une galette de silicium nécessite l'emploi de 45 grammes de ces produits toxiques. Et pour produire un kilo de silicium électronique, il faut 280 kg de produits chimiques. Une simple puce électronique de 2 grammes nécessite 1600 grammes d'énergie fossile secondaire, 72 grammes de produits chimiques, 32 000 grammes d'eau, comme on l'a vu, et 700 grammes de gaz élémentaire, et 160 fois plus de ces éléments pour atteindre la silice de qualité électronique avec laquelle on fabriquera des panneaux solaires. L'augmentation constante de la production mondiale de silicium entraîne une augmentation constante de la consommation de charbon. Eh oui, ça, on le sait pas. Vu la dimension mondiale de leur utilisation depuis les montres jusqu'aux immenses fermes solaires, on peut voir la dimension de ces problèmes d'énergie et de pollution. Alors, les éoliennes, c'est pas plus amusant. Vous avez ça, voilà, les éoliennes. Alors, les éoliennes, de tout temps, l'homme a utilisé le vent pour produire de l'énergie, ça on est au courant, hein, surtout chez nous et en Catalogne, etc. De nos jours, sous cette forme, l'éolienne est encore utilisée, couplée à une pompe à eau, généralement pour assécher des zones humides, ou irriguer des zones sèches ou permettre l'élevage du bétail. Mais ces usages ne sont que des ancêtres et des nains, eu égard au gigantisme recherché pour cause de productivité. On construit aujourd'hui des éoliennes qui ont jusqu'à 200 mètres de hauteur, avec des pales de 15 à 75 mètres. Un océan de contradictions jalonne les recherches sur l'impact réel des éoliennes, dont l'utilisation de presque 10 kg de terres rares, sur l'énergie et les pollutions nécessaires à leur fabrication et édification, qui sont incomparablement plus importantes que leur impact sur les oiseaux, les nuisances sonores ou esthétiques, etc. Mais on doit considérer que leur durée prévue d'une vingtaine ou trentaine d'années au maximum entraînera une récurrence de ces problèmes. En 10 ans, la production d'énergie éolienne a été multipliée par 10, sans pour autant détrôner vraiment la production d'électricité à partir de fossiles, pétrole, gaz, houille ou d'atomes. Une éolienne cache dans ses entrailles toute une panoplie d'équipements, dont un alternateur à aimant permanent. Ces fameux aimants permanents, extrêmement coûteux, sont généralement en partie composés d'un alliage de terres rares, néodyme, fer, bore, dans la majorité des cas, avec de plus petites quantités de dysprosium et de praséodyme. Ainsi, pour fabriquer une éolienne de 3 MW, la société Frontières Rares Earth, spécialisée dans le domaine des terres rares, cite des quantités de terres rares allant jusqu'à plus de 2700 kg. Avec le développement de l'éolien au niveau mondial, l'industrie des terres rares s'attend donc à une demande de plus de 8000 tonnes de la part de l'industrie éolienne. Cela ne fait que croître. Jusqu'à aujourd'hui. On s'aperçoit que si on veut conserver notre mode de vie actuel, il nous faut ces terres rares. Il faut aller les chercher, là où elles sont, par tous les moyens. C'est ce qu'est en train de faire le capitalisme. Le pays qui détient le plus de terres rares va mener le monde, soit directement comme la Chine, soit par néocolonialisme et conflits provoqués et savamment entretenus, au Congo, au Niger, etc. Et là encore, la Chine met les bouchées doubles en achetant des milliers d'hectares sous couvert d'agriculture ou d'infrastructures. La Chine, mais pas que. La recette de Shell, Elf, Chevron, etc. pour saigner l'Afrique de ses hydrocarbures reste valable pour s'approprier les terres rares. Et il y aura encore longtemps des politiciens locaux sensible aux moyens de séduction des multinationales.
Madame Afrique, qu'est-ce que vous avez maigri? Asseyez-vous, je suis le docteur Banque Mondiale. Je vous présente mon associé, le docteur FMI. Vous inquiétez pas, on ne vous fera aucun mal. On a enfin trouvé le médicament pour soigner et guérir votre maladie. Un comprimé dépasse tous les jours pendant 5 ans. Je vous assure, l'effet est garanti. Content de savoir que les choses vont changer. Mais dès le premier cachet avalé, les effets secondaires n'ont pas tardé. Licenciement, privatisation, suivi des pauvretés. Soulèvement populaire, bonjour l'instabilité. Ils nous donnent de la main droite, cœur peine de la main gauche. Pendant que la misère, la faim et la maladie nous fauchent. La Banque mondiale, le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale, le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. On ne peut pas demander à la fois à quelqu'un de courir et de se gratter les fesses. On demande au sud de serrer la ceinture pour que le nord puisse porter ses bretelles. La Banque mondiale, le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale, le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. Un jour mon grand-père m'a dit, si tu dors sur la natte d'autrui, dis-toi que tu dors à même le sol, parce qu'un jour il en aura le bol. D'imposer le café et le coton, mais quand nous avons faim, c'est pas ce que nous mangeons. Ils nous assomment à coups de dettes et s'étonnent qu'on ait mal à la tête. Même quand on a un président démocrate qui veut sortir son peuple de la misère, il se heurte à la politique des technocrates qui décide ce qui est prioritaire. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale, le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale, le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale, le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale, le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale, le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale, le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale, le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés.
Alors, d'où viennent les terres rares? Ce qui revient à se poser la question. Quelles sont les victimes de la transition écologique? Alors le lithium, ça vient d'Amérique du Sud, Chili, Bolivie et surtout Pérou. Il y en a en Chine aussi, au Tibet. Il y en a en Australie et en Irlande. Le cobalt, c'est surtout en Afrique, en République dite démocratique du Congo, en Zambie et au Maroc. En Amérique du Nord, Canada, USA, en Russie, en Australie, aux Philippines et en Nouvelle-Calédonie. Par contre, on ignore ce que possède la Chine en cobalt. Enfin, ils en ont, hein, c'est sûr. Les autres terres rares viennent de Chine, Mongolie et Tibet. Oh, pardon. D'Australie, des USA, en Californie. Du Canada, de Suède, qui produit le dysprosium des éoliennes et des centrales nucléaires. La Russie aussi, dans la péninsule de Kola. L'Inde et le Brésil, le Vietnam et le Kazakhstan. L'Afrique, au Malawi, au Kenya, en Tanzanie, à Namibie. En Afrique du Sud, à Madagascar. Voilà, toutes les victimes de la transition écologique. Et quelles sont les conséquences? Alors, la Chine, qui a bien appris le capitalisme, a implanté ses entreprises partout où il y a des terres rares. Ces entreprises ont racheté toutes les mines locales et les usines correspondantes, après avoir cassé les prix mondiaux, grâce à ces ressources énormes. Ainsi, au Yémen, en Afghanistan, en Irak, en Corée du Nord, en Somalie, au Mali, au Congo, au Burundi, en Birmanie, et même aux USA. Pour le cobalt, on fait travailler les enfants. Dans des mines profondes, ils creusent, équipés de pics et de lampes frontales, mais sans casque ni autre équipement, et dans des boyaux non sécurisés. Les plus petits travaillent à ciel ouvert, en cassant les pierres de cobalt remontées à la surface. Les minerais sont traités avec des acides forts, pour récupérer les métaux, bien sûr. Alors, ces acides, eh bien, c'est chlorhydrique, sulfurique ou nitrique. Ou bien de la soude ou des carbonates. Et puis ensuite, évidemment, il faut laver les métaux obtenus, ce qui entraîne une pollution énorme pour sortir tous ces acides mortels. Pollution énorme des eaux locales, des nappes phréatiques, des rivières, etc. Le silicium est extrait du quartz des sables, on sait ça. Il doit être chauffé. Chauffé à quoi? Eh bien au carbone, c'est-à-dire au charbon. Pour atteindre l'état dont on parlait tout à l'heure, l'état de silicium métallurgique, utilisable dans l'industrie traditionnelle, mais pas pour les panneaux solaires, lesquels demandent un silicium encore purifié chimiquement, par distillation et décomposition thermique, laquelle bien sûr est grande consommatrice de charbon, de carbone. Le silicium, alors en fusion, est dopé chimiquement pour pouvoir générer un courant électrique dans les cellules photovoltaïques. Le cuivre, quant à lui, est devenu rare et de plus en plus cher et est récupéré par tous les moyens, le feu en particulier, ce qui entraîne des pollutions très importantes. Le nickel. Si vous avez vu des reportages sur la Nouvelle-Calédonie, vous avez vu des paysages lunaires épouvantables. Le nickel laisse, après extraction, des paysages dénudés, défoncés, où la flore locale a disparu avec ses espèces rares, laissant un sol sans défense, sous l'érosion, et vulnérable aux attaques climatiques. Le graphite, c'est du carbone naturel qui est toujours très utilisé pour les batteries. Il deviendrait encore plus important que le cobalt et le lithium dans la fabrication des batteries de véhicules électriques. Alors bien sûr, la Chine fabrique actuellement plus de 90% de ses batteries. Le coltan, dont on parle de plus en plus. Le coltan, eh bien, c'est un minerai qui réunit deux métaux, la colombite et la tantalite. C'est pour ça qu'on parle de coltan et on parle aussi quelquefois de tantale. Mais le coltan, c'est les deux, c'est la colombite et la tantalite réunies. Ce coltan, si précieux pour les technologies de l'information et de la communication, les TIC, ce coltan est extrait en Afrique principalement et pose les mêmes problèmes d'exploitation que le cobalt. Danger des mines non sécurisées, emploi des enfants. Obama avait fait une loi de traçabilité qui avait partiellement assaini le système, en empêchant les industries américaines de se fournir dans les pays ne respectant pas les normes de sécurité et les droits de l'enfant. Mais Trump est arrivé. Alors, si mes cordes vocales sinistrées me laissent la possibilité, je vais vous lire des extraits de cette brochure « Progrès et barbarie ». L'extraction degré zéro de l'exploitation de la force de travail. Le tout début d'une bonne partie de l'exploitation des terres rares et autres métaux nécessaires aux énergies renouvelables a lieu en Afrique, le plus souvent dans la République du Congo. Ce n'est pas l'esclavage, c'est pire. Car l'exploiteur n'est pas propriétaire de celui qu'il exploite, lequel n'a aucune valeur, car il peut être remplacé du jour au lendemain. Pour 1 euro par jour, cet esclave moderne, parfois un enfant de 4 ans, trime à la limite de l'épuisement pendant jusqu'à 12 heures par jour. Même si sa rentabilité n'est pas extraordinaire, c'est lui et l'encadrement, qui est souvent le père ou un autre membre de sa famille, c'est lui qui fournit en ce début de chaîne d'approvisionnement une bonne partie de la plus-value que récolteront à la fin du processus Apple ou les autres entreprises. Et voilà un extrait du Daily Mail, s'il vous plaît. Du 16 août 2017. Frappant, main nue, avec une barre de fer, une montagne d'énormes rochers, ce petit garçon épuisé offre une vision déplorable. Il s'appelle Dawson et fait partie de cette armée d'enfants, certains âgés d'à peine 4 ans, travaillant dans les mines largement polluées de la République démocratique du Congo. La poussière rouge, toxique, brûle les yeux. On risque ici des maladies de peau et d'infections pulmonaires mortelles. Là, pour un salaire d'à peine 1 euro par jour, les enfants doivent briser des rochers pour en extraire le filon de minerai de cobalt de couleur chocolat, ce métal qui forme un des éléments essentiels des batteries des voitures électriques. Il est à craindre que des milliers d'enfants vont se trouver entraînés vers cet enfer quotidien, puisqu'on annonce en Grande-Bretagne et ailleurs que les voitures à essence ou diesel vont être remplacées d'ici à 2040 par des véhicules électriques. Dawson n'est qu'un des 40 000 enfants qui travaillent chaque jour dans les mines de la République démocratique du Congo. La ruine de leur santé et une mort précoce sont le prix qu'ils payent pour que nous ayons un air exempt de pollution. Presque tous les constructeurs automobiles envisagent de produire des millions de voitures électriques en achetant du cobalt produit dans l'un des plus pauvres pays d'Afrique, la RDC, le plus gros producteur, avec 60% des réserves mondiales. Le cobalt est extrait sous forme de minerai par ce travail clandestin et acheminé vers l'Asie pour être utilisé dans des batteries plus performantes, plus légères, à durée de vie plus longue et rechargeables. L'essor de la voiture électrique promet une demande exponentielle de cobalt. Alors que la pile d'un téléphone portable ne contient pas plus de 10 grammes de cobalt, une voiture électrique en consomme 15 kilos. Personne ne sait combien d'enfants sont morts dans ces mines de cobalt du Katanga. Les Nations Unies donnent le chiffre de 80 par an. Mais beaucoup de morts ne sont pas enregistrées, notamment celles dues à l'effondrement des tunnels. Ceux qui survivent voient leur jeune vie détruite par des maladies chroniques. Pour compléter, les filles d'à peine 10 ans exploitées dans ces mines subissent des agressions sexuelles et beaucoup se retrouvent enceintes. Richard se plaint qu'à la fin de la journée de travail, tout son corps est endolori, qu'il a mal partout. Dans un pays ravagé par la guerre civile, dans laquelle des millions de personnes sont mortes, il n'y a pas d'autre issue pour les familles, pour simplement survivre, que de se faire exploiter dans ces conditions. Monica, qui a tout juste 4 ans, travaille dans la mine aux côtés de Dawson et de Richard. La révélation de ces conditions d'exploitation des enfants pour le profit des grandes entreprises occidentales a quelque peu troublé les multinationales comme Apple, soucieuses non d'humanité, mais de leur image de marque. La société informatique a promis, Urbi et Orbi, qu'elle veillerait à changer ses pratiques avec ses fournisseurs. Mais tout récemment, en catimini, Apple a décidé d'abandonner cette orientation et de maintenir les anciennes pratiques. Les perspectives de profit commandent. J'avais trouvé autre chose aussi. Voilà. Le journaliste anglais Tom Moham raconte. près du lac toxique placé sous haute garde. Un métallo nous dit que ses revendications l'ont privé de tout espoir de trouver du travail. Plusieurs centaines de ses collègues ont été licenciés ces derniers mois. Quand on le questionne sur l'impact environnemental, il hausse les épaules en déclarant « On n'y comprend rien. On n'est ici que pour gagner de quoi vivre. » Alors là, on est en Chine. D'où je me tiens, le complexe Baogang Steel and Rare Earth a la dimension d'une ville. Bouche l'horizon. Ses trous de refroidissement et cheminées d'usines sortant de la grisaille pour salir le ciel. Entre lui et moi s'étend un lac artificiel empli d'une masse visqueuse, noire et puante et toxique. Des douzaines de tuyaux s'alignent sur le rivage, déversant sans arrêt un épais torrent noir de déchets chimiques. L'odeur du gaz sulfureux et le rugissement des tuyaux me submergent. C'est l'enfer sur terre. On estime que les mines de terres rares de Bayan Obo, au nord de Baotou, contiendraient 70% des réserves mondiales de terres rares. Au centre d'une nouvelle ruée vers l'or du XXIe siècle, Baotou ressemble à une ville frontière. En 1950, avant que commence réellement l'exploitation des terres rares, la ville comptait 97 000 habitants. Ils sont aujourd'hui près de 3 millions. La nuit, des lumières multicolores teintées par les applications des terres rares. Ah oui, j'ai découvert que tous les verres roses était teinté avec des terres rares. On n'y pense pas, on ne le sait pas, mais voilà. Bon. Alors donc, des lumières multicolores teintées par les applications de terres rares éclairent des petites rues remplies d'ouvriers qui, plus ou moins ivres, peuplent bistrots et échoppes de viande grillée. Même si l'on n'a pas vu le lac toxique, l'impact environnemental de l'industrie des terres rares sur la ville est tristement évident. Il est impossible de dire où finissent les vastes structures des complexes industriels et où commence la ville. D'énormes tuyaux surgissent du sol, longent les rues et les trottoirs, s'élèvent dans les airs pour traverser routes et ponts. Ici, les rues sont larges, conçues pour le flot ininterrompu d'énormes camions de charbon, crachant leur gazole, qui dominent tout le trafic routier. Quand il pleut, les routes sont inondées par des flots noirs de poussière de charbon. Ils s'écoulent dans les bas-côtés, contournent les nombreuses centrales électriques au charbon qui semblent dangereusement proches des tours d'habitation fraîchement construites. Partout, au milieu des immeubles en construction et des parpaings jetés à la hâte, c'est une forêt de flammes des raffineries et de pylônes électriques composant un paysage tel qu'on n'en connaît plus aujourd'hui dans les pays occidentaux. Détroit ou Sheffield ont dû ressembler à ça et puer autant, etc. Une des principales productions de Baotou est le néodyme, qui connaît plusieurs applications, la principale étant la fabrication d'aimants permanents. Comme nous visitons l'usine, on nous donne quelques-uns de ces aimants pour jouer avec. Mais là encore, quand nous posons d'autres questions plus précises sur cette utilisation ou les problèmes de pollution, les réponses ne viennent pas et la visite est écourtée. Pourtant, le raffinage du néodyme et du cérium est polluant et toxique. Et si la Chine détient 90% du marché du néodyme, alors que 30% seulement des réserves mondiales se trouvent ici, c'est peut-être moins à cause de la géologie que de l'absence de volonté de prendre des mesures environnementales. On revient en République démocratique du Congo. Les travailleurs de Glencore en RDC, membres du syndicat TUMEC, affiliés à la Fédération syndicale internationale Industrie Hall, décrivent leurs traitements et conditions de travail comme pas moins qu'un esclavage, comparable à Guantanamo. Eux et leurs familles sont victimes de maladies dues à la manipulation des terres rares parce qu'ils rapportent leurs vêtements à la maison. Il n'y a dans l'usine aucune laverie, ni point d'eau, ni lavabo, ni douche. Oui, nous sommes si sales quand nous rentrons à la maison que nous ne pouvons même pas embrasser nos enfants, déclare un des ouvriers. Ils ne reçoivent que 75 centilitres d'eau potable par équipe. eux et leur famille ne peuvent bénéficier des soins de l'hôpital Glencore, trop distant du lieu de leur résidence. Ils pensent que cette politique est recherchée pour abaisser les coûts de production. Il est difficile de résumer la vie quotidienne de cette catégorie de mineurs en raison des différenciations. Il ne fait aucun doute que même si les conditions de vie d'un mineur chilien, logement et standard de vie, sont loin d'être parfaites, il n'y a aucune comparaison possible avec ce que vivent les travailleurs noirs de Kolwezi. Voilà, je pense que je vous ai fait suffisamment de peine pour aujourd'hui. Je vais peut-être m'arrêter là. En tout cas, si vous pouvez vous procurer cette brochure, donc « Échange et mouvement », cette brochure donc date de septembre 2018, c'est à ce moment-là que nous l'avons reçue. Et c'est donc, on retrouve la plupart de ces enquêtes sur AgoraVox, que nous vous citons assez souvent, je crois. Je suis désolée de vous avoir fait autant de misère, mais il faut savoir ce que coûtent ces bricoles que nous avons tous dans nos poches. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il ne faut surtout pas gaspiller, je pense. Mais vous êtes assez grand pour prendre vos décisions personnellement. En tout cas, plus on consomme, plus on est coupable. Ça, c'est certain. Merci de votre écoute. J'espère que vous me pardonnerez ce carnage verbal. Mais je tenais à vous raconter tout ça. Voilà. À mercredi prochain. On parlera de l'Algérie.